Il est 12h. Le journal de midi. Paul Bénédicte Bolou.
Il est 12h, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue dans le journal de ce vendredi 3 mai. Un gisement aurifère a été découvert dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, constituant le plus grand du pays à ce jour. L'annonce a été faite par le président du groupe minier canadien Montage Gold, qui a été reçu par le chef de l'État ivoirien hier jeudi. Déjà 34 ans que la Côte d'Ivoire est retournée au multipartisme pour offrir des alternatives de solutions aux problèmes des populations. Alors, quel bilan faire aujourd'hui? Dans ce journal, vous aurez le regard d'un politologue. Hors du territoire ivoirien, conflit Hamas-Israël, la deuxième déclaration des coalitions de l'Afrique francophone pour la Cour pénale internationale s'inquiète du silence et de l'inaction du procureur de la CPI. Vous aurez l'intervention de son coordonnateur. Et puis, en toute fin d'édition, vous suivrez l'invité de la rédaction de ce jour, professeur Yeboué Kwame Brou-Yves, directeur de la prévention et de la promotion de la santé et de la sécurité au travail à la CNPS. En compagnie de Junior Cardin, il se prononcera sur la célébration couplée de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail tenue récemment à Abidjan et à San Pedro. Voilà pour l'essentiel. Projet Kone, le président du groupe canadien Martino de Chichio a été reçu hier jeudi à Abidjan par le président de la République Alassane Ouattara pour lui faire part de la découverte d'un important gisement aurifère de la classe mondiale dans les départements de Kani et de Diarra, situé dans le quartier du Ouroba. Les ressources minérales de ce gisement, la plus grande mine dans le pays à ce jour et la troisième dans la sous-région sont exploitées, selon Martino, à 5 millions d'onces, soit 155,5 tonnes d'or. Cela nécessitera des investissements de plus de 400 milliards de francs CFA. Le démarrage des travaux de construction de cette mine est d'une durée de vie estimée à 20 ans pour le dernier trimestre de l'année 2024 et l'entrée en production en 2027. Sur le projet Kone, l'on annonce un partenariat gagnant-gagnant avec les partenaires locaux et l'État ivoirien. École nationale d'administration sortie de la 58e promotion baptisée Robert Begré-Mambé, forte de 543 futurs fonctionnaires, dont 208 femmes. La cérémonie officielle s'est tenue hier jeudi 2 mai à Abidjan-Cocody en présence du parrain, le Premier ministre. Le chef du gouvernement a engagé ses filleux à s'inscrire dans la dynamique nouvelle d'une administration disciplinée par le respect rigoureux des règles de fonctionnement. On fait le point avec Mata Touré.
Elles étaient un embout douté, l'attraction de cette 58e promotion de l'ENA.
J'ai demandé Myriam, j'ai demandé Zeyna.
Mais vous avez fait carrément d'une pierre deux cailloux.
Vous savez qu'on avait les regards sur nous parce qu'on était deux, donc forcément, tout le monde nous connaissait dans la promotion.
543 élèves ont célébré à côté de ses jumelles la fin de leur formation et du coup leur entrée prochaine dans l'administration publique ivoirienne. C'est pillé sur Narcisse Thomas, directeur général de l'ENA.
La 58e promotion compte 433 élèves issus des concours directs, 98 des concours professionnels et 5 recrutés en qualité de moniteur libre et 7 à titre étranger.
Le Premier ministre Robert Begré-Mambé parle de cette promotion.
Une grande école a des lois, des règles et des contraintes. La vérité n'est pas ici le plus. Le préfet tellement bien que l'ENA est devenue prestigieuse.
Anne-Désirée Ouletto est la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration ivoirienne.
Au ciel, on compte, il faudra construire jour après jour des actions en marchant de façon résolue sur le socle marqué et la démocratie sociale.
Il convient d'indiquer que la promotion compte 208 femmes, soit 38% de l'effectif total, mais également des auditeurs à titre étranger. Ce sont des élèves non ivoiriens recrutés à la demande des gouvernements de leur pays.
Un atelier de réflexion sur la constitution d'un corps des bénévoles nationaux et des services volontaires s'est tenu le 25 avril dernier à Yamoussoukro à l'initiative du ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers l'Office du Service civique national. Cet atelier qui a vu la participation d'une cinquantaine de personnes a déterminé les conditions de constitution, d'opérationnalisation et les acteurs clés pour la mise en place de ce corps des bénévoles et des services volontaires, ainsi que des modalités pratiques pour sa mise en œuvre et son mode de financement. De Yamoussoukro, Emiliao.
Le directeur général de l'Office du Service Civique National, Touré Mamadou, suit les enjeux réels de ces assises.
C'est un acte important qui est en train d'être posé aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, à l'occasion de la CAN, a mobilisé 30 000 jeunes volontaires et bénévoles et le gouvernement s'est engagé à poursuivre l'encadrement de ces jeunes-là. Parce que cette opportunité d'avoir 30 000 jeunes doit être valorisée et bonifiée.
Il s'agit, en termes de perspective, d'avoir une base de données de jeunes dans les différentes localités du pays. Des jeunes pour qui des missions précises seront définies pour aider à des besoins d'intérêt général, précise Touré Mamadou.
Les 30 000 jeunes qui ont fait la CAN vont automatiquement basculer dans le corps des bénévoles qu'on veut créer. Mais toutes ces personnes qui ont de l'expertise et qui vont à la retraite peuvent venir dans le corps des bénévoles pour donner de leur temps. Donc, en fait, il faut mobiliser toute la population pour atteindre un tel engagement.
Un engagement né de l'organisation récente de la dernière Coupe d'Afrique des Nations dans le pays, indique Cabran Kwame du ministère de la Promotion, de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle et du Service civique.
Nous avons pris des engagements vis-à-vis de nos jeunes, de donner suite à cet événement, de mettre en place un instrument qui devra valoriser et donner la perspective à nos jeunes. Il s'agit également de favoriser la rencontre entre les jeunes, les partenaires techniques et financiers, les ONG et la société civile en vue d'améliorer leur employabilité.
Le corps des bénévoles envisagé devra atteindre à terme un effectif de 3 millions de personnes représentant 10% de la population nationale. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Comme annoncé en titre, 30 avril 1990, 30 avril 2024, il y a 34 ans que la Côte d'Ivoire effectuait son retour au multipartisme. Mais l'espoir démocratique que cela avait suscité a été trahi par les partis politiques, estime le directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan, qui les accuse d'avoir servi de la violence dans le pays tout ce laps de temps. L'analyste politique Sylvain Nguessan est au micro de Francis Kassi.
Bon, c'est une bonne chose que la Côte d'Ivoire soit sortie du monopartisme. Seulement que 34 ans après, on se pose la question de savoir si le citoyen de mars-avril 1990 aurait quelque chose à envier au citoyen ivoirien de mars-avril 2024. Parce que bon, l'espoir nourri au lendemain du retour au multipartisme, on n'a pas accouché le fruit espéré. Bon, il y a eu le formalisme juridique, c'est vrai, c'est reconnu par la Constitution. Il y a eu plusieurs partis, on parle de plus de 200 partis politiques. Mais en termes de qualité de vie de l'ivoirien, bon, qu'est-ce qui a fondamentalement changé.
Donc, qu'auriez-vous souhaité voir ces partis-là faire depuis 90?
D'abord, il y a la maturité politique pour moins de violence, parce qu'on ne peut pas être d'accord sans en arriver à la violence. Si chaque fois qu'il y a un désaccord, il doit avoir mort. Donc, après 34 ans, c'est à déplorer. Or, malheureusement, pour nous, c'est cela. En dehors de l'élection présidentielle de 2015, qui n'avait pas grand-chose à réalité, parce que boycotté par l'opposition, toutes les autres élections depuis 90 se sont soldées par des morts. Donc, les partis politiques ne font aucun effort pour faire respecter la dignité humaine.
Vous venez d'entendre l'analyste politique Sylvain Nguessan. En prélude à la 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée tous les 3 mai, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, ont organisé un panel de haut niveau autour du thème « La presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale ». La rencontre s'est déroulée hier jeudi 2 mai à la Maison de la presse d'Abidjan Plateau. Les détails avec Jean-Ménel.
Lors de ce panel, Lala Oku, chargée de communication à la représentation de l'UNESCO à Abidjan, est revenue sur le choix de ce thème par son organisation pour cette 31e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
Le thème met en lumière un aspect important de notre époque. Les médias jouent un rôle vital dans la sensibilisation du public aux défis environnementaux auxquels notre planète est confrontée. Ils sont des acteurs indispensables dans la lutte pour un avenir plus durable.
Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI, a décliné sa vision pour un journaliste de qualité.
Relever le défi environnemental, il faut que les gens soient sensibilisés, notamment les journalistes, il faut qu'ils soient outillés à la chose environnementale. Il faut qu'ils aient les rudiments pour pouvoir porter le combat. Celui, par exemple, qui veut informer, éduquer, voire former, lui-même doit être bien formé. S'il ne l'est pas, il est difficile pour lui de mener à bien sa mission.
Professeur Kouadio Georges, conseiller technique au ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, a au nom du ministre Konan Jacques Assaoré indiqué les actions à mener pour la formation des journalistes ivoiriens.
Les journalistes ont besoin de formation dans le domaine de l'environnement. Le ministère est prêt, à travers nos deux ministères, ministère de la Communication et ministère de l'Environnement, pour travailler ensemble afin que les journalistes soient à même de porter la vraie information. Et nous commencerons par la vulgarisation du Code de l'environnement qui, en son sein, établit les droits et les devoirs de chaque citoyen, de tous les instruments juridiques pour la protection de notre environnement.
La Journée mondiale de la liberté de la presse sera célébrée ce vendredi 3 mai en Côte d'Ivoire.
Divo, manque généralisé d'eau potable dans la ville, non-respect des prix des produits alimentaires, homologués par le gouvernement entraînant la cherté de la vie, insécurité grandissante, sont les principales observations faites le 1er mai dernier, faites du travail par des différents responsables de syndicats de travailleurs à Divo. De Divo, notre correspondant régional, Abel César Cassin, pour plus de détails.
De nombreuses corporations de travailleurs clairement identifiables par leur uniforme ou t-shirt ont pris part au défilé dont le point de chute était l'esplanade de la préfecture de région. Le porte-parole des travailleurs affiliés à la FESACI, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, Koffi Olivier, évoque ici la cherté de la vie à Divo.
La cherté de la vie est devenue un phénomène crucial. L'augmentation des prix du carburant à la pompe de 615 francs à 875 francs en moins de 2 ans influe sur tous les prix des produits de consommation et surtout ceux de première nécessité. Aucun contrôle des prix, alors la Côte d'Ivoire dispose de main-d'œuvre outillée et qualifiée à la matière. L'insécurité dans l'Ol du Bois demeure préoccupante. Il faudrait donc accompagner les forces de défense et de sécurité avec des moyens conséquents pour plus d'efficacité.
Le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, Bamba Soalio, soulève la question de l'eau.
Depuis des mois, il n'y a pas d'eau dans certains quartiers. La population est obligée de se rabattre au puits. Pour l'établissement des cartes d'identité, il n'y a qu'un seul point d'enrôlement et de distribution avec un quota insignifiant.
Annonce a été faite au cours de cette cérémonie que Divo connaîtra son préfet de région ce samedi, chose qui mettra fin à une longue période d'intérim. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
En page internationale, conflit Hamas et Israël, la deuxième déclaration des coalitions de l'Afrique francophone pour la Cour pénale internationale face au massacre de civils, surtout de femmes et d'enfants, et de bombardements d'hôpitaux et camps de réfugiés. Les coalitions interpellent au vu de cette situation catastrophique et ce, afin de prévenir la perpétuation pour cette organisation. Le silence et l'inaction du procureur de la CPI sont incompréhensibles. Pour les coalitions de l'Afrique francophone pour la CPI, le coordonnateur Ali Ouattara que nous avons joint.
Nous avons fait une première déclaration pour demander à ce que le procureur puisse enquêter après le 5 octobre 2023. Et le procureur a suivi notre démarche en faisant une tournée dans la région, mais il n'a pas pu aller voir accès à Israël. Il est là en Jordanie, en Cisjordanie, en Égypte. On a été conforté par la démarche du procureur. Mais depuis cette déclaration, c'est silence radio. Donc c'est pour cela que nous avons interpellé encore le procureur pendant que la Cour internationale de justice par rapport à la peine de la Cour du Sud a fait des injonctions à Israël. Pendant que, également, au niveau du Conseil de sécurité, il a été également fait injonction à Israël de rien cesser le feu. La CPI n'a pas réagi. Donc, nous avons interpellé la CPI pour qu'elle puisse réagir. Quand les mandats sont scellés. C'est le procureur seul qui peut les mettre en public. Les enquêtes continuent et nous souhaitons vraiment que notre dernière déclaration puisse faire un déclic au niveau du procureur pour qu'effectivement les mandats puissent être rendus publics et que ça puisse avoir un impact véritable sur l'arrêt des cessations et des suivis à grande échelle en Israël.
Alors, concernant justement ces deux pays, nous savons qu'ils ne sont pas membres de la CPI. Pensez-vous qu'ils pourraient reconnaître la compétence de la Cour pénale internationale?
Mais la Palestine, par rapport à la l'article 12.3 du statut a reconnu les compétences de la CPI. Dans le principe de fonctionnement des enquêtes au niveau de la CPI, on n'a pas forcément besoin que les deux États soient membres de la CPI, forcément, soit État par Israël commet des crimes sur un État qui a reconnu la compétence juridictionnelle de la CPI, notamment la Palestine. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à cela.
Ali Ouattara, coordonnateur pour les coalitions de l'Afrique francophone pour la Cour pénale internationale. L'invité de la rédaction de ce jour est professeur Yeboué Kwame Brou-Yves, directeur de la prévention et de la promotion de la santé et de la sécurité au travail à la CNPS. Les 25, 26 et 27 avril dernier, la Caisse nationale de prévoyance sociale a organisé de façon couplée la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. À la fin des travaux, professeur Yeboué Kwame Brou-Yves va se prêter aux questions de Junior Cardin.
Bonjour professeur.
Bonjour monsieur.
Professeur, il s'agit de la 28e journée africaine de la prévention des risques professionnels et de la 22e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Et ces journées donc s'achèvent maintenant. Qu'est-ce qu'on peut retenir ?
On peut retenir qu'il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui, malgré les efforts en matière de prévention, ont des taux d'accidents du travail qui sont élevés. Et donc, il est important que nous puissions avoir des interventions communes au niveau de tous les acteurs en charge des questions de santé et sécurité au travail pour pouvoir faire baisser ces taux d'accidents du travail. Car comme vous le savez, les accidents entraînent une souffrance pour le travailleur, c'est une perte pour la société, pour la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et surtout, il faut faire des efforts pour que nos concitoyens vivent mieux en situation de travail. Et surtout dans les entreprises qui commettent le plus d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
On sait que l'année dernière, la 27e journée a produit 5 recommandations et une seule a été exécutée. Qu'est-ce qui explique cela ?
Il faut dire que ce qui se passait, c'est qu'il arrivait que les structures qui viennent assister aux journées africaines de prévention ne se sentent pas forcément concernées par la correction des situations, la mise en œuvre des recommandations. Cela fait que cette année, nous avons adressé ces recommandations à des structures particulières. Et nous allons, au cours de l'année, mener des activités afin de noter l'évolution qui est réalisée par rapport aux différents recommandations.
Parlant des recommandations de la 28e édition, c'est-à-dire donc cette année, il y a deux principalement, adressées au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et puis à l'attention des organismes de contrôle. Est-ce que c'est parce que l'année dernière, il y a eu quelques petits problèmes dans l'exécution que cette année, c'est seulement deux recommandations ?
Oui, parce que dans tous les cas, nous pensons qu'il ne faut pas émettre un nombre pléthorique de recommandations et ne pas les appliquer. Alors que là, lorsque nous choisissons deux recommandations qui sont essentielles, nous pensons pouvoir les réalisé au cours de l'année.
Est-ce qu'on peut avoir une idée des recommandations de cette année ?
Il y a eu deux recommandations, mais ces deux recommandations portent toujours sur les questions de contrôle au sein des entreprises. Pour mieux contrôler, il importe qu'il y ait une synergie d'action entre les différentes structures dans une région géographique donnée. Il ne faudrait pas que, par exemple, la direction de la prévention et de la promotion de la santé et sécurité au travail pense seule la réduction des risques. Il faudrait qu'il y ait une rencontre de l'ensemble des structures en charge du contrôle et que ensemble on puisse décider de la conduite à tenir pour pouvoir réduire les risques professionnels dans notre pays. Et la deuxième recommandation porte sur les interventions conjointes. D'un côté, se rassembler pour réfléchir ensemble et agir. Et puis, lorsqu'on part sur le terrain, il faut effectuer des interventions conjointes. C'est-à-dire que lorsque l'on part, par exemple, avec l'inspection du travail a des pouvoirs que nous n'avons pas. Donc, nous allons capitaliser sur ces pouvoirs. Nous partons avec la police nationale ou l'office de protection civile. Ces structures ont des pouvoirs que nous n'avons pas. Il en va de même d'autres structures telles que le SIAPOL, la direction de la santé et sécurité au travail, etc. Il s'agit donc en fait de potentialiser nos forces pour pouvoir mieux agir en milieu de travail.
Au cours de ces trois journées, la situation des travailleurs indépendants a focalisé pratiquement les débats. Est-ce que ces travailleurs indépendants pourront tout aussi bénéficier des réflexions liées donc à la sécurité et la santé au travail ?
Alors, il faut dire que les travailleurs indépendants ou les travailleurs de l'économie informels sont aujourd'hui à la base des réflexions dans les pays africains. Parce que nous avons 90 à 99% des travailleurs qui relèvent de l'économie informelle. Et donc si nous nous contentons d'un million de travailleurs du secteur formel, c'est comme si nous jetons une goutte d'eau dans la mer. Donc il faut que nous nous intéressions à eux. Et Dieu merci, la Caisse nationale nationale de prévoyance sociale a créé le régime social des travailleurs indépendants. À partir de là, ces travailleurs indépendants sont affiliés à la CNPS et vont bénéficier de toutes les prestations que la CNPS peut mettre à la disposition de ses partenaires. Et donc, en matière de santé et sécurité au travail, nous avons aussi élaboré une stratégie et nous allons, au cours de l'année, mettre en œuvre cette stratégie.
Professeur, vos satisfactions au sortir donc de cette 28e journée?
La grande satisfaction, c'est que nous tendons à passer la main à des structures de moindre importance, voire même aux entreprises. Et pour cela, cette année, de façon concomitante, nous avons organisé les journées de la prévention à Abidjan, à San Pedro et à Boaké. Ce qui fait en tout près de 800 personnes qui ont été concernées. Nous estimons que à l'échelle locale, si les recommandations sont appliquées, nous arriverons à de meilleurs résultats. Et si plus tard, nous passons la main aux entreprises, ça sera encore meilleur parce que cela prouvera l'engagement des entreprises en matière de lutte contre les accidents du travail et maladies professionnelles.
Professeur Yeboué, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Professeur Yeboué Kwame Brou-Yves, directeur de la prévention et de la promotion de la santé et de la sécurité au travail à la CNPS, invité de la rédaction, répondait aux questions de Junior Cardin. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Un gisement aurifère a été découvert dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, constituant le plus grand du pays à ce jour. L'annonce a été faite par le président du groupe minier canadien Montage Gold, qui a été reçu par le chef de l'État ivoirien hier jeudi. Déjà 34 ans que la Côte d'Ivoire est retournée au multipartisme pour offrir des alternatives de solutions aux problèmes des populations. Alors, quel bilan faire aujourd'hui? Dans ce journal, vous avez suivi le regard d'un politologue. Fin de ce journal, la rédaction sera de retour à 15h pour le Flash. L'information continue avec la revue de presse présentée par Jean-Claude Comé sur Radio de la Paix.
Bonjour à tous. Le potentiel minier ivoirien se révèle chaque jour.